Bonsoir Clotilde Le Guilde.
Bonjour Philippe Lassagna.
Nous sommes contents de vous recevoir à Bordeaux, à la librairie Mola, que vous commencez à bien connaître.
C'est vrai.
Puisque on rappelait que vous êtes venu il y a assez longtemps pour présenter votre ouvrage sur Sartre avec Lacan. Et il n'y a pas si longtemps, vous avez présenté les deux premiers ouvrages de ce qui constitue pour certains une trilogie. C'est-à-dire « Céder n'est pas consentir », « L'ère du toxique » et le dernier « La déprise » qui... Alors, est-ce que ça ferme la trilogie ou est-ce que il y aura une quadrilogie? On ne sait pas. Pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas tout à fait, vous êtes au départ philosophe, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous êtes enseignante de psychanalyse au département de Paris 8.
Oui.
Mais vous êtes aussi quelqu'un qui fait des émissions à la radio, à France Inter, qui les produit. Et je crois aussi que vous avez lancé une sensibilisation à la psychanalyse au sein d'un cinéma, MK2, Marin Karmitz, donc c'est ça, pour ceux qui se rappellent. Et donc ça fait beaucoup de choses.
Alors le cycle à la radio est terminé, mais il est toujours accessible sur la plateforme L'Inconscient. Voilà, c'était une proposition qui m'avait été faite par France Inter de faire des narrations autour de concepts de la psychanalyse.
Et alors, au fond, dans Philosophie Magazine, qui parle de cette trilogie, ils vous ont posé la question, mais quel est le point qui fait réunion entre ces trois choses, céder n'est pas consentir, l'ère du toxique et maintenant la déprise?
Oui, alors d'abord, peut-être pour répondre à votre toute première question, est-ce que c'est la fin de cette trilogie? Je pense que oui. Je pense que la déprise est un point d'arrivée pour moi dans cette élaboration, dans cette réflexion qui a pris son élan avec « Céder n'est pas consentir », c'est-à-dire avec cette tentative que j'ai faite d'essayer de définir à la fois le consentement depuis la dimension de l'inconscient, mais aussi la différence entre l'ambiguïté du consentement, les expériences où le consentement est en jeu et en même temps le non-savoir, à quoi on consent, de distinguer ces expériences-là des expériences traumatiques. Et ça, ça a été un premier élan, je dirais, parce que j'ai eu le sentiment que la psychanalyse pouvait apporter un éclairage, ou en tout cas, c'était des questions auxquelles j'étais sensible, et qui, bien sûr, étaient en prise aussi avec l'actualité. Et je trouvais qu'il y avait une approche du consentement qui était peut-être un peu réductionniste, c'est-à-dire comme un contrat ou comme un consentement libre et éclairé. Et j'ai plutôt voulu introduire la question du désir et de l'inconscient pour penser le consentement. Donc ça, c'est vrai que c'est parti de là. Et finalement, cette question-là, eh bien, je l'ai retrouvée dans la déprise, puisque je me suis proposé de reprendre cette question du consentement, mais à l'endroit de l'amour, non plus d'explorer les expériences de forçage du consentement ou de trahison du consentement, c'est-à-dire finalement aussi les mauvaises rencontres, mais justement de réintroduire le consentement dans son sens d'expérience d'ouverture à l'événement amoureux et à la bonne rencontre. Donc le fil, je dirais, conducteur entre les trois, c'est la question du désir. Voilà, comment finalement rendre compte du rapport au désir dans l'expérience du consentement elle-même, dans cette expérience-là, dans l'expérience de la rencontre. Et dans la déprise, il y a une sorte de reprise de la question du consentement, mais à l'endroit de l'événement amoureux.
Oui, je trouve très intéressant qu'au fond, on a connu le siècle précédent, c'était le siècle du désir, c'était tout le monde parlait du désir et oubliait un peu l'amour. Et puis petit à petit, au XXe siècle, on a eu un mouvement de balancier qui fait que tout le monde est parti dans l'amour. Alors l'amour douloureux ou l'amour formidable, très souvent avec des espèces de manuels de comment y faire avec l'amour, parce que ça ne se passe pas très bien. Mais ce que vous montrez, vous, en prenant l'amour comme un événement, c'est que ce qui est important, c'est que l'amour ne soit pas un oubli du désir. Et au fond, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant que vous partiez de l'amour pour revenir à la question du désir et montrer que, au fond, ce qui fait échouer souvent l'amour, c'est oublier le désir quand l'amour efface, disons, le désir et amène le sujet. Alors, vous resservez de Lacan pour ça. Amène le sujet parfois au nom de l'amour, ce qui est un paradoxe, à céder sur son désir.
Mmh. Oui, alors là, c'est ce à quoi vous faites référence, ce trajet finalement de l'amour au désir, dont vous faites aussi presque un trajet du 20e au 21e siècle. C'est un trajet qui nous conduit au point d'arrivée du livre, c'est-à-dire à la fin du livre, où effectivement j'ai été très inspirée. Et ça, il y a eu des résonances aussi en moi par ce que Lacan peut dire du drame de l'amour comme ignorance du désir dans le séminaire 20. Et cette question de l'ignorance du désir dans l'amour, je trouve que il est peut-être le seul à l'avoir formulée de cette façon. Mais pour reprendre le point de départ, ce que j'ai d'abord voulu souligner, c'est une conception du consentement et de l'amour qui ne soit pas du côté de l'imaginaire, c'est-à-dire du côté d'une conception de l'amour qui serait une conception narcissique de l'amour ou une conception d'ailleurs de l'amour du côté de relations de pouvoir, comme de l'amour comme assujettissement ou de l'amour comme domination. J'ai d'abord voulu reprendre cette question de l'événement pour penser la rencontre comme ce qui vient nous bouleverser, mais aussi nous faire advenir, en quelque sorte, non pas seulement comme je, mais comme autre à nous-mêmes. Et effectivement, là, il y a aussi une analogie avec l'expérience de l'analyse, puisque dans l'expérience de l'analyse, il y a aussi cette rencontre avec le transfert qui est de l'ordre de l'amour et qui fait advenir une part de notre être par-delà le narcissisme. Donc, pour moi, le point de départ, enfin, ce qui m'a porté, hein, l'élan initial, ça a été de travailler sur cette notion d'événement et d'essayer de montrer en quel sens l'événement amoureux, à l'échelle d'une vie singulière, avait la même valeur que l'événement historique à l'échelle de la grande histoire. J'ai essayé de l'aborder comme ça, c'est-à-dire cet événement qui vient produire des secousses, qui vient rebattre les cartes, qui a à voir avec une forme de révolution intime, hein, et qui fait coupure avec une certaine dimension de l'histoire passée ou du destin. Donc j'ai trouvé qu'il était important de réintroduire cette dimension de l'amour comme événement dans un moment aussi où la multiplication des rencontres ou leur formatage à travers les applications de rencontres font disparaître ou fait disparaître totalement cette dimension de l'événement. Voilà. Donc c'est et en même temps cette dimension de l'événement, on y a affaire dans son existence et on y a affaire aussi dans la clinique. On voit bien que la question de la rencontre elle fait événement au point de confronter aussi le sujet à un non-savoir et à une faille en lui-même. Donc ça, c'était, je dirais, vraiment l'élan initial de ce livre, le point de départ. Et c'est aussi le premier sens que j'ai donné à ce mot de déprise, c'est-à-dire l'idée de se déprendre de soi et de consentir à s'ouvrir à l'événement. Et ce qui m'a intéressé, c'est que à la fois cela conduit à penser autrement l'amour que simplement comme disons une sorte de l'amour comme multiplication des rencontres, voilà, mais ça conduit aussi à penser autrement le consentement. C'est-à-dire que si on pense le consentement, non pas seulement comme un consentement à l'autre, mais comme un consentement à l'événement qui nous bouleverse. On ne peut plus réduire le consentement à un contrat. On ne peut pas dire qu'il y a un consentement libre et éclairé. Parce que le consentement à l'événement, c'est précisément le consentement à se dessaisir en quelque sorte de toute maîtrise, à se dessaisir aussi du narcissisme et à s'ouvrir à une forme de contingence qui vient bouleverser notre être.
Oui, et au fond, c'est pour ça que vous insistez sur le pari qui existe dans ce consentement à l'événement, ce qui n'est tout l'inverse, comme vous le dites, d'un calcul.
Voilà.
Et au fond, vous dites aussi à un moment que c'est un pari qui parie sur les mots.
Oui.
C'est-à-dire de laisser les mots faire leur travail, de choisir de se perdre dans les mots. Et là, je crois que vous êtes proche de l'expérience analytique, qui est une forme, puisqu'au fond, le transfert en psychanalyse est une forme d'amour, où on vous demande, au nom de ce transfert, de vous perdre dans les mots. Alors, est-ce que c'est généralisable à toute forme d'amour, se perdre dans les mots?
Alors, en tout cas, effectivement, il me semble qu'il y a une analogie très forte entre ces mots qui font l'amour, pour reprendre la très belle phrase de Breton, ces mots qui font l'amour dans la rencontre, et ces mots qui, d'une certaine façon, font aussi l'amour dans l'expérience analytique. C'est-à-dire que dans la rencontre amoureuse comme dans l'expérience analytique, il est question d'un nouveau rapport à la parole et au langage. Et j'ai pensé à cette phrase de Lacan dans Fonction et champ de la parole et du langage, qui dit que ce qui me constitue comme sujet, c'est ma question. Et finalement, il le dit à propos de l'analyse, mais on pourrait le dire aussi pour l'événement amoureux. C'est-à-dire que ce qui va me constituer comme sujet amoureux, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une image de moi-même, mais une question qui vient à se poser sur mon être depuis le bouleversement de la rencontre. Alors les mots, juste pour dire un mot sur les mots qui font l'amour, il m'a semblé aussi important de donner une actualité nouvelle à cette phrase de Breton pour dire que l'événement amoureux, il en passe par les mots. Ce n'est pas uniquement une rencontre des corps, ce n'est pas uniquement une rencontre sexuelle, non pas que ce ne soit pas aussi une rencontre sexuelle, mais la rencontre sexuelle dans l'événement amoureux, elle en passe aussi par les mots. Et donc, les mots qui font l'amour, c'est une phrase qui permet de saisir ce changement de régime, de rapport à la parole dans l'événement amoureux, où les mots se mettent en quelque sorte à désobéir à un certain sens commun. Dans la rencontre, il y a quelque chose qui se joue autour d'une langue particulière qui n'est plus la langue commune et qui est aussi à certains égards désobéissance au sens commun. Et ces mots qui font l'amour, ça permet aussi de penser la dimension inconsciente qui est toujours en jeu dans la rencontre et qui est peut-être un peu déniée dans certaines conceptions contemporaines de l'amour. C'est-à-dire lorsque les mots font l'amour, le sujet ne sait plus ce qu'il dit. Comme le dit Lacan aussi à propos de l'analyse, il consent à ne pas savoir ce qu'il dit. Et au fond, dans l'expérience amoureuse, il y a quelque chose de cet ordre, un bouleversement de mon rapport aux mots qui suscite un désir nouveau et procure aussi une forme de jouissance.
Et ce qui, je trouve, est intéressant, puisque vous introduisez ce mot qui n'est pas toujours très familier en psychanalyse, de désobéissance. On a toujours l'idée comme ça que la psychanalyse n'est pas forcément du côté de la désobéissance, enfin, pour ceux qui la critiquent. Et au fond, vous faites valoir cette fonction de la désobéissance, c'est-à-dire en disant, vous venez de le dire, de désobéir au sens et à la signification.
Voilà.
Qui est le poids, les significations lourdes qui fait qu'on pense avoir compris le sens de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on peut vivre. Et au fond, c'est pour désobéir à ça. Alors, vous faites aussi mettez une tension aussi que j'ai trouvé intéressante entre déprise et désobéissance. Et au fond, la désobéissance, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du choix du sujet. Il choisit d'obéir ou de ne pas obéir. Évidemment, il choisit dans la mesure où son surmoi, comme que vous évoquez aussi, l'autorise. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'avec la déprise, il y a autre chose qui rentre en jeu, un petit peu comme il y avait autre chose qui rentrait en jeu dans céder, c'est-à-dire quand dans céder par rapport à consentir, il y a la dimension du corps. Et je crois que dans la déprise par rapport à la désobéissance, qu'est-ce que vous en pensez, il y a aussi cette dimension du corps.
Oui, c'est vrai. Merci pour cette remarque, parce que c'est vrai que je ne me l'étais pas formulée comme ça, mais c'est vrai que le terme de déprise, il est peut-être plus fort aussi que le terme de désobéissance, parce qu'il renvoie aussi à ce qui nous prend au corps, finalement. Alors, c'est vrai que la désobéissance, c'est pas un concept de la psychanalyse. Néanmoins, il y a quand même, chez Freud, toute une réflexion quand même sur l'obéissance, par exemple, à propos de la psychologie des foules. C'est quand même une réflexion sur ce qui produit une forme de désobéissance dont il rend compte à travers l'hypnose des foules. Donc il y a quand même cette réflexion qui est là. C'est vrai que moi, je me suis aussi intéressée à ce concept de désobéissance depuis la philosophie, parce que c'est un concept qui est beaucoup travaillé en philosophie politique, notamment à travers la question de la servitude volontaire.
C'était bien connu ici à Bordeaux.
Absolument. C'est pour ça que je cite Étienne de la Boétie, parce que je suis à Bordeaux. Et donc, cette question de la servitude volontaire, elle m'a intéressée pour essayer de l'aborder d'un point de vue intime, non pas seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue intime et du point de vue psychique. Parce que finalement, la question du surmoi que vous évoquiez, elle permet une certaine lecture de l'obéissance et de la désobéissance. Et là aussi, je partage avec vous certaines rencontres avec des phrases de Lacan qui ont pu aussi frayer une voix en moi pour cette réflexion. Lacan, je crois que c'est dans le séminaire sur l'angoisse, dit que la voix, c'est ce qui réclame obéissance. Et donc, cette définition de la voix, elle est vraiment, bien sûr, on peut penser aux hallucinations auditives, mais là, je l'ai pas prise de ce côté-là, je l'ai prise aussi du côté de l'étymologie même du verbe obéissance. C'est quand même passionnant d'apercevoir que lorsque Lacan définit la voix comme ceux qui réclament obéissance, il en revient à l'étymologie, puisque obéir, étymologiquement, c'est ob audire, c'est-à-dire se soumettre à ce qu'on entend, prêter l'oreille à. Et chez Lacan, il y a toute une un déchiffrement de ce qui nous entre par l'oreille et contre quoi nous ne pouvons rien d'une certaine façon, que nous incorporons. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est une approche qui est tout à fait inédite de la question de l'obéissance, par rapport en tout cas à l'approche de la philosophie politique, parce que c'est pas exactement la servitude volontaire. C'est quelque chose à quoi on obéit en soi-même, mais en cédant en quelque sorte à l'effet du surmoi. Et donc, quand j'aborde cette question de la désobéissance, effectivement, ce n'est pas du tout au sens d'une désobéissance qui pourrait être, de l'ordre simplement d'un refus d'obéir, mais c'est au sens où il y a quelque chose chez le sujet qui peut le conduire à obéir à ce qui vient pourtant malmener son désir. Voilà. Et c'est le surmoi, finalement. Et donc, ça, c'est la deuxième partie du livre sur les ressorts intimes de l'obéissance, où j'essaie d'interroger cette expérience psychique, finalement, qui n'est plus du consentement, mais qui est une sorte de forçage de l'obéissance en soi-même et qui, finalement, fait obstacle aussi à la dimension du désir. Donc, quand je dis que la psychanalyse, elle a à voir avec une certaine expérience de désobéissance, c'est effectivement par rapport à la fois aux significations qui ont pu faire autorité, d'une certaine façon, sur notre destin, et auxquels nous pouvons parvenir à désobéir, c'est-à-dire finalement desquels nous pouvons nous déprendre plutôt, pour reprendre la distinction que vous proposiez. Et puis, c'est aussi par rapport au surmoi, puisque finalement, dans l'expérience de l'analyse, on en vient aussi à pouvoir se déprendre des commandements du surmoi.
Dont Lacan d'ailleurs dit que c'est une grosse voix au fond,
voilà,
et qui est une grosse voix d'ailleurs. C'est assez amusant puisqu'il dit cette grosse voix, c'est souvent l'écho métamorphosé du cri du sujet, c'est-à-dire oui. Le sujet appelle, fait un appel à l'autre, et l'autre répond par la grosse voix qui va devenir le surmoi. Alors, ce qui est intéressant aussi. La déprise, c'est une espèce d'envers de l'emprise.
Oui.
Et justement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'emprise, dont on parle beaucoup, de l'amour toxique, donc au fond, dont vous parlez aussi, c'est quelque chose justement qui prend au corps. Voilà. Et on comprend, des fois on se demande pourquoi le sujet, c'est souvent des sujets féminins d'ailleurs, on dit mais pourquoi est-ce qu'elle reste avec lui ? Pourquoi est-ce qu'elle obéit à ce qu'il dit? Pourquoi elle supporte tout ça? Enfin, tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage où à un moment donné, il a pu penser ça. Et très souvent, et des fois, c'est des gens qui consultent, et on voit de la dimension de l'emprise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne se résout pas par une simple décision,
voilà.
Parce qu'il y a une prise au corps. C'est des gens qui sont pris au corps. Et est-ce que c'est pas cela aussi qui les rapproche de ceux qui sont pris au corps par un toxique, c'est-à-dire de l'addiction. Ou aussi, on dit, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas? Alors, plus simplement pour tout le monde, de fumer, par exemple, ou de boire, mais parce que ça prend au corps. C'est aussi le corps qui est à la main. Voilà. Donc, c'est pas simplement le sujet.
Oui, c'est ça. C'est parce que ce terme d'emprise, qui est devenu aussi très à la mode, on peut proposer une approche purement psychologique et la mettre au compte de l'autre, de l'effet de l'autre, d'un autre mal intentionné. Mais finalement, ça ne permet pas de résoudre l'énigme de ce qui fait emprise sur le sujet, en dépit de sa volonté, en dépit de son désir, ce qui fait tout de même emprise et qui est du côté aussi de la répétition. Et donc, j'ai voulu proposer une approche, on pourrait dire, métapsychologique de l'emprise, c'est-à-dire qui consiste à penser l'emprise à partir non pas simplement d'un autre ou d'un type de caractère, mais à partir de ce qui vient faire emprise sur le désir. Qu'est-ce qui vient faire emprise sur le désir du sujet au point de s'exercer sur lui comme un nouvel empire? Et c'est effectivement intéressant de voir là aussi l'histoire du mot emprise, puisque au départ, le mot emprise vient de entreprise, donc c'est plutôt un terme positif qui signifie imprédérer, entreprendre quelque chose. Et ce terme d'emprise, par une proximité avec deux autres termes, celui d'empire et celui d'empreinte, a pris son sens actuel. C'est-à-dire de se sentir sous la domination d'un autre qui exerce un ascendant sur le sujet. Et finalement, on peut proposer, en tout cas depuis la psychanalyse, avec Lacan, une approche de l'emprise par-delà l'imaginaire, là aussi, hein, à partir de la question du surmoi, en tant que ce qui fait emprise, eh bien, c'est aussi une instance qui exerce son pouvoir, certes, mais qui est propre au sujet lui-même. Et donc, il y a en effet cette question de ce qui peut faire emprise dans l'amour, puisque vous évoquiez notamment les sujets féminins, c'est-à-dire de ce qui peut faire qu'on passe de l'événement amoureux, de cette ouverture à l'événement amoureux qui suscite un nouveau désir, à une forme de renversement où le sujet en vient à renoncer à quelque chose de son désir, comme sous l'emprise de ce qui vient faire autorité en lui depuis l'amour. Et j'ai vu là une question qui avait déjà été pointée par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, dans son chapitre « L'amoureuse », mais c'est une question qu'elle pointe plutôt depuis les conditions de vie historiques des femmes, c'est-à-dire depuis l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et effectivement, on peut le prendre aussi comme ça. Mais avec Lacan, on l'aborde plutôt à partir de ce qui prend au corps, justement, à partir de la façon dont il peut y avoir une forme d'exigence du sujet lui-même dans l'amour à faire un avec l'autre et finalement, certes, à se retrouver sous l'emprise, mais par-delà cette emprise, il y a aussi une exigence qui est de faire un avec l'autre. Et Éric Laurent avait fait un cours sur les positions féminines de l'être où il emploie ce terme d'exigence, hein, l'exigence côté féminin dans l'amour. Et ce terme d'exigence, bien sûr, il résonne avec le devoir et avec le surmoi. Et donc, ça permet d'aborder l'emprise depuis la psychanalyse, non plus finalement simplement à partir de type de caractère, hein, mais d'aborder l'emprise depuis une exigence qui se fait jour chez le sujet féminin dans l'amour de chercher à fusionner, hein, au point de disparaître en tant que sujet.
Et de disparaître en tant que femme, parce qu'au fond, est-ce que justement le sujet féminin n'est pas plus exposé à ce mirage de l'un, de l'unité ? Puisque l'unité du couple souvent lui fournit à une femme qui peut ne pas être tout à fait tranquille avec l'unité, avec son unité, soit parce qu'elle est divisée, soit parce que, comme le dit Lacan, la femme idéale n'existe pas. Donc l'unification, là, est problématique. Et l'amour fournit une forme de l'un qui peut faire que quelque chose est apaisé. Alors, chez l'homme aussi, et au fond, Lacan s'est amusé avec le fait que un certain nombre de femmes cherchaient le pas plus d'un, c'est-à-dire l'au moins un, et puis une femme peut aussi chercher à être la seule. Mmh. Et ces versions amusantes, si on peut dire, des fois sont absolument dramatiques, mmh. puisque pour être la seule, comme dit Lacan, on peut être prêt à tous les sacrifices. Mmh.
C'est ça. C'est une lecture, finalement, de cette pente au sacrifice dans l'amour, de ce dont parle Simone de Beauvoir comme un dévouement féminin dans l'amour, qui confine au masochisme, une forme de masochisme moral, et dont Lacan offre une lecture, finalement, à partir de cette exigence de fusion, cette exigence de faire un. Mais c'est vrai que dans mon livre, j'ai aussi voulu justement chercher une autre voie. Voilà, une autre voie que celle qui conduirait à penser l'amour comme devant échouer nécessairement dans cette fusion, finalement, qui est aussi ignorance du désir. C'est là où cette précision de Lacan m'a semblé extrêmement précieuse. Le drame de l'amour comme ayant à voir avec l'ignorance du désir, puisque finalement c'est une façon de repenser l'éthique du désir à l'endroit de l'expérience amoureuse. Parce que finalement, dans le séminaire 7 sur l'éthique, il est question de l'amour courtois, mais il est surtout question du rapport à la pulsion de mort et d'Antigone, qui n'est pas vraiment une amoureuse. Mais dans le séminaire 20, lorsqu'il évoque ce drame de l'amour comme ignorance du désir, c'est comme si finalement il reprenait cette question de avoir cédé sur son désir comme pouvant aussi se produire à l'endroit de l'amour depuis cette exigence de fusion.
Oui. Céder sur son désir, dont il dit que dans ce séminaire, qu'au fond, ça a toujours l'effet de rendre coupable. Et on retrouve notre vieil ami, le surmoi. C'est-à-dire, c'est le surmoi opère quand on cède sur son désir. Et au fond, quand on ne cède pas sur son désir, on peut espérer le congédier. D'ailleurs, Freud disait toujours que le meilleur remède par rapport au surmoi, c'est surtout de ne pas y obéir.
Hein ah ben voilà, alors il parle d'obéissance.
Oui, oui, Freud parle d'obéissance. Et ce que je pensais en vous écoutant parler de l'Empire, au fond, c'est intéressant puisque on peut dire que l'époque, le siècle précédent avait beaucoup d'espoir dans la mondialisation, dans la pacification, dans la paix des peuples. Et ce qu'on voit surgir aujourd'hui, c'est la force des empires et la violence des empires. Et au fond, ce vis-à-vis de quoi il va falloir se déprendre, c'est certainement de ce pouvoir des empires. C'est ça. Alors, par ailleurs, on en parlait là avant de venir ici sur scène, il y avait dans L'étourdi de Lacan, qui est un texte assez formidable qu'on a étudié pendant longtemps. Lacan dit, mais au fond, cet empire, d'où ça vient? Et il dit, ça vient de l'emporion, latin. C'est-à-dire, ça vient du magasin. C'est-à-dire, les magasins, les emporions de la Rome antique étaient les magasins où la puissance de Rome se faisait dans le commerce. Mm-hmm. Et au fond, on voit que se développent des... Alors, j'avais envie de vous poser la question, puisque Lacan l'a dit... là, évidemment, avec les magasins, on est du côté du capitalisme. Et au fond, Lacan a pu dire que le capitalisme, c'était quelque chose qui ne voulait rien savoir de l'amour.
Voilà, oui, c'est ça. Alors, d'abord, merci pour la citation de L'étourdi, parce qu'effectivement, j'ai dû la lire, mais pas au moment où je travaillais sur cette question de l'emprise, et j'avais complètement oublié qu'il parlait de l'empire et de l'emporium dans ce sens. Oui, c'est intéressant de conférer aussi ce sens politique à l'emprise. L'emprise, effectivement, a un sens intime, mais certains grands penseurs politiques, comme par exemple Giuliano da Empoli, qui vient d'écrire L'heure des prédateurs, enfin qui a fait paraître L'heure des prédateurs il y a maintenant quelques mois, considèrent que nous avons changé de paradigme politique. nous sommes à l'heure des empires, et il considère que c'est la fin de la diplomatie et que nous avons vraiment affaire à un pur rapport de force violent, hein, entre les empires. Et c'est aussi la thèse d'un économiste, Arnaud Aurin, qui a écrit sur le capitalisme de la finitude, où il rend compte du fait que on n'est même plus à l'époque capitaliste où il pouvait y avoir une concurrence entre différents commerces, mais on est vraiment à l'heure des hégémonies, hein, qui font disparaître la concurrence possible. Hein, on n'est plus dans le moment du libéralisme économique. Il dit qu'il y a plus de concurrence possible. Donc il y a une sorte de moment du 1, finalement, pour reprendre une formule de Lacan, qu'a beaucoup commenté Jacques-Alain Miller. On est dans un moment du 1 aussi au niveau politique, avec cette question des nouveaux empires qui font finalement emprise. Et cette dimension politique, elle fait apercevoir aussi quelque chose sur le plan de l'intime. C'est-à-dire, elle fait apercevoir les effets produits par ce qui peut faire empire sur nous-mêmes. Et au fond, dès qu'il y a empire ou emprise, il y a ce régime de l'unitotalité. Hein, il y a aussi un sinologue qui a travaillé sur l'empire chinois, l'empire antique chinois, qui s'appelle Romain Graziani, que je cite dans mon livre, et qui fait toute une histoire de l'empire chinois depuis la Chine antique jusqu'à aujourd'hui, et qui montre qu'il y a là un rêve d'unitotalité. C'est-à-dire qu'au fond, il montre ce qu'il y a derrière le rêve de faire un. Et derrière le rêve de faire un, il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une disparition de la singularité, hein, et d'une obéissance à un certain régime qui ne fait plus de place à la différence, hein, et à ce que Lacan appelle aussi la différence absolue comme étant précisément ce qui advient d'une analyse.
Et je crois qu'il y a un rapport au sens de l'espérance et puis un peu du délire aussi entre l'amour de l'un totalité, c'est-à-dire très souvent cet amour de l'un va de pair avec l'idée d'un amour éternel. Et au fond, c'est assez curieux et amusant parce qu'au fond, les empires se pensent toujours éternels. C'est-à-dire, ce qui ne les empêche pas de chuter, mais tant qu'ils existent, ils se pensent éternels. Et au fond, il y a un passage de Lacan, je crois que c'est dans le séminaire 20, où il dit que cette idée de l'éternité, ben, elle vient de l'idée de l'amour éternel. Et donc, l'intotalité, peut-être que c'est l'amour qui nous en a refilé, si l'on peut dire, l'idée.
Oui, alors peut-être, mais il y a quand même aussi cette dimension politique, je pense, des empires qui ont traversé l'histoire et qui ont imposé, hein, une certaine modalité politique qui est la modalité du 1. Et finalement, il s'agit de savoir si on peut penser l'amour par-delà cette exigence de faire un, c'est-à-dire un nouvel amour, comme disait Lacan, une autre dimension de l'amour qui supporterait cet écart, qui supporterait le malentendu, qui supporterait finalement d'assumer la dimension du désir, bien qu'elle mette en péril le un.
Alors, est-ce que dans cette perspective, on sortirait de l'un tout? Je crois que c'est l'expression que vous utilisez, et j'étais un peu surpris que vous ne lui opposiez pas le patou de Lacan, c'est-à-dire de dire qu'au fond, certainement, c'est du côté féminin, puisque les femmes, pour lui, sont pas toutes, voilà, que pourrait être pensé un amour qui, justement, sort du tout. Or, il est évident que là, c'est au cas, c'est une par une que ça peut s'opérer, parce que collectivement, c'est pas toujours très très simple, disons.
Alors, j'ai évoqué, je crois, rapidement cette dimension de ce que Lacan appelle le patou, côté féminin, dans la réflexion sur l'exigence de faire un dans l'amour, c'est-à-dire dans ce que j'ai appelé les réponses de Lacan à Simone de Beauvoir. J'ai cherché un personnage, parce que j'aime bien incarner ma réflexion à partir aussi de figures, que ce soit pas simplement une série d'argumentations ou d'arguments conceptuels. Et donc, j'en ai quand même trouvé une qui se confronte à cette unitotalité. Lacan s'est beaucoup intéressé à Alceste, dans les propos sur la causalité psychique. Il nous montre, finalement, à travers la façon d'aimer d'Alceste, quelque chose qui témoigne de sa persécution, hein, lorsqu'il extrait une tirade où Alceste dit qu'il aime tellement Célimène, enfin il lui dit qu'il l'aime tellement qu'il en vient à former des vœux contre elle. Et donc j'ai repensé à ce personnage, j'ai relu Le Misanthrope, mais c'est aussi grâce à des très belles mises en scène plus récentes que j'ai vues du Misanthrope, notamment une mise en scène d'Alain Françon, que je me suis aperçue que ce personnage de Célimène, il était intéressant aussi en tant que, à certains égards, figure féminine qui parvient à ne pas céder à cette exigence de fusion. Parce que finalement, c'est ce que lui demande Alceste. Il lui demande qu'elle soit toute à lui, qu'elle ne parle plus aux autres, qu'elle ne soit plus prise dans la conversation, donc qu'elle ne soit plus pas toute à lui. Et il exige qu'elle ait un rapport à la vérité et à la transparence qui lui permettrait aussi lui d'exercer un empire sur elle, donc de l'avoir tout à lui. Et il est vrai qu'au XXe siècle, on a souvent présenté Célimène comme une coquette, volage, qui n'avait pas vraiment de fond. Hein. Et finalement, on voit que dans les mises en scène plus récentes, on réinterprète Célimène tout à fait différemment, en lui donnant une certaine dignité, une certaine éthique. Hein. Et finalement, Célimène, on peut la considérer comme une vraie amoureuse, parce qu'il y a une très belle tirade où elle déclare son amour à Alceste. Elle l'aime vraiment, mais elle est de ces femmes qui ne cèdent pas à cette exigence de fusion et qui ne veut pas être toute à lui. Et à la fin, finalement, elle incarne quelque chose du tragique, hein, puisqu'elle en vient à lui dire non, à refuser son exigence à lui, qui est qu'elle se retire du monde pour n'exister plus que dans son désert à lui, comme l'écrit Molière.
Oui, mais dans sa solitude,
voilà.
La solitude du misanthrope. Oui. Alors, est-ce que aussi ce souci de la totalité, de l'intotalité, est-ce que ça peut nous faire penser que ça a un rapport pour Lacan avec le masculin et le féminin, c'est-à-dire la sexualité, mais au fond avec cette idée de Lacan que le masculin et le féminin, comme il dit dans le séminaire 12, on ne sait pas ce que c'est. Et au fond, bien plus tard, il considère que l'amour, justement, c'est un remède à cela. C'est-à-dire, étant donné qu'on ne sait pas ce qu'est le rapport sexuel, c'est-à-dire la relation, on ne sait pas définir les sexes de façon stable, l'amour y supplée. Parce qu'au fond, et c'est ce qui fait d'ailleurs que par moments, il peut dire que l'amour, d'un certain côté, et Freud ne serait pas forcément contre, est quelque chose qui va presque contre le sexe. Ça peut. Hein, d'où l'amour courtois, d'où l'amour idéal, d'où l'amour divin. Hein, ou quelque chose, on met le sexe de côté. Mais ce qui est intéressant dans cette perspective de Lacan, c'est de se dire qu'au fond, si on va au bout de cela, si l'amour supplée un peu à l'absence de rapport, alors quid à notre époque où justement le masculin et le féminin, curieusement, qu'on pensait être une question apaisée, est une question qui ne l'est pas du tout. Puisque dans notre contemporanéité, il y a le wokisme, il y a le genre, il y a le radicalisme religieux, des deux côtés d'ailleurs, de chaque religion, qui restaure des choses qu'on croyait disparues. Donc est-ce que, quelque part, l'autre amour, ça ne serait pas aussi une façon de sortir de ce retour, disons, au pire du sexisme?
Oui, mais c'est aussi pour cela que je suis repartie de l'événement amoureux, puisque l'événement amoureux nous arrache à toute identité. Donc il n'y a plus les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais il y a une rencontre. Une rencontre qui vient justement faire voler en éclats toute croyance qu'on pouvait avoir sur son être. Et donc, j'ai trouvé aussi des figures masculines qui, finalement, vont être bouleversées par la rencontre amoureuse, et notamment le petit maître de Marivaux, ce petit maître corrigé, Rosimond, qui est celui qui refuse finalement de laisser apparaître la faille qu'a produite en lui sa rencontre avec Hortense et qui se terre derrière son narcissisme. Et je trouve que Marivaux montre très bien, et c'est aussi parce que j'avais vu la pièce à la Comédie Française montée par Clément Hervieux-Léger que j'avais pensé à ce personnage qui était magnifiquement interprété par Loïc Corbéry. Marivaux montre très bien, à la fin, finalement, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort dans ce refus de se laisser bouleverser par l'événement amoureux. Donc là, je réponds pas tout à fait sur la question des deux sexes, mais je réponds sur le fait qu'on peut aussi penser du côté masculin quelque chose comme un refus de se laisser bouleverser et au fond un moment où quelque chose de la puissance de la rencontre vient à l'emporter. Ce que vous avez souligné, Philippe, me fait penser à cette remarque de Lacan que j'ai pas citée dans le livre mais qui est bien connue, où il aborde la différence entre les hommes et les femmes relativement au désir et à l'amour, lorsqu'il dit que lorsque les hommes désirent, ils ne savent pas qu'ils aiment, et lorsque les femmes aiment, elles ne savent pas qu'elles désirent. Et donc, ce qui est beau dans ce chiasme, c'est que aux deux endroits, il y a un « ils ne savent pas ». Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient, et on a besoin de réintroduire cette dimension de l'inconscient si on veut aussi faire une place à cet événement amoureux.
C'est d'ailleurs très joli, puisque en général, l'amour événement, au départ, on ne sait pas qu'on aime. C'est même ce qui signe l'événement, c'est qu'on se dit « Ah, mais alors je l'aime », ce qui est très joli. Mais ce que je pensais aussi en vous écoutant là sur ce que vous dites des hommes, je crois que quelque part, Lacan dit quand un homme aime, il se met dans une position féminine. Mm-hmm. Et très souvent, ce qu'il arrête en chemin, c'est justement ce fait que d'aimer, il devient un petit peu... Il se met un peu du côté de la logique féminine.
Mm-hmm. Oui, mais on pourrait dire aussi que dans l'ouverture à l'événement amoureux, il y a quelque chose de l'ordre d'une réceptivité à l'autre qui déloge un peu d'une certaine position virile.
Alors, on a peut-être envie de parler un petit peu de, non pas de l'avenir de votre prochain livre, puisque vous me dites peut-être que ça fait pas, que le quatrième n'est pas encore très clair, mais dans cette idée de la déprise, est-ce que vous pensez puisqu'il y a le premier pas justement d'une version de l'amour qui pourrait résonner et peut-être nous fournir un amour, Lacan à un moment donné dit un petit peu différent du genre de bavardage en quoi il consiste. Mm-hmm. C'est vrai que les amoureux souvent ont des bavardages ineptes, mais et donc est-ce que vous pensez que la déprise fait partie de ce qui va permettre peut-être d'aborder un peu plus sérieusement l'amour et peut-être de bavarder moins, ce qui d'ailleurs s'applique à l'amour de transfert.
Oui, c'est vrai que le terme de déprise, peut-être qu'il peut permettre de penser cette double dimension dans la rencontre, à la fois donc de ce dessaisissement de soi, de cette réceptivité au kairos, à la contingence, qui se produit aussi dans l'analyse, finalement. Hein, que l'analyse, c'est aussi une expérience de réceptivité à ce qui surgit, un consentement à ce kairos. Et en même temps, la déprise, c'est aussi un terme qui est intéressant pour penser une forme de puissance d'agir, parce qu'on peut pas non plus en rester simplement à cette position de réceptivité à l'événement. Il y a aussi ensuite une responsabilité du sujet dans sa réponse à l'événement. Et je trouve que ce terme est riche pour cela, puisqu'il a ces deux dimensions, hein, à la fois de se déprendre de soi, finalement, de son narcissisme, en consentant à devenir autre à soi-même dans l'événement amoureux, mais il y a aussi se déprendre au sens d'un mouvement plus actif, non pas qu'il soit nécessairement de l'ordre de la pure décision rationnelle, je ne pense pas qu'on peut le réduire à un calcul, hein, puisque comme vous le soulignez au début de notre entretien, ça a à voir avec ce qui prend au corps. Hein. Mais il y a une autre forme de déprise, là, qui met en jeu quelque chose du désir et quelque chose que moi j'appellerais avec Spinoza une puissance d'agir. Une puissance d'agir, ben c'est de toute façon la définition lacanienne aussi du désir qu'il reprend à Spinoza, c'est-à-dire persévérer dans son être. Et donc on peut aussi penser un amour qui aurait une dimension, vous dites, plus peut-être éthique ou plus digne, comme dit Lacan, au sens où il aurait à voir aussi avec cette éthique du désir.
D'ailleurs, oui, c'est ça. En reprenant Spinoza, Lacan remarque aussi que ce qui est l'inverse de la puissance d'agir, c'est la tristesse. Donc il faut un amour joyeux. Et au fond, il y a certainement une certaine joie dans la désobéissance. Enfin, du moins, chez les enfants, c'est pas tant. Ils sont toujours très contents de désobéir. Et ça les fait rire. Mais ce que je pensais, c'est qu'à un moment donné, vous dites la désobéissance est un art. Et par rapport à tout ce que vous évoquez dans votre livre, qui est souvent de la littérature et l'écriture aussi, vous parlez beaucoup d'écriture, oui. Est-ce que l'art n'est pas la désobéissance?
Oui, ça serait tout à fait dans le sens de ce que j'essaie de montrer. C'est d'ailleurs la conclusion de L'homme révolté de Camus, hein, qui dénonce d'une certaine façon les désobéissances destructrices. Celles qui conduisent à une nouvelle forme d'obéissance, en fait, d'obéissance à une forme d'exigence d'instaurer un nouvel ordre, qui serait l'ordre qu'il faut, hein, l'ordre du monde qu'il faut. Et à la fin, Camus termine par une autre forme de révolte, lui il appelle ça la révolte, qui serait la révolte dans la création, donc dans l'art d'une certaine façon. Et si j'ai employé cette formule d'art de la désobéissance, c'est au terme d'une distinction que j'ai essayé de faire entre une désobéissance qui serait du côté du déchaînement pulsionnel, hein, une désobéissance finalement qui irait du côté de la pulsion de mort, que j'ai aussi essayé d'analyser avec les libertins, hein, et avec Sade, et peut-être une autre forme de désobéissance qui relève d'un certain art, c'est-à-dire qui a à voir aussi avec le désir et qui tient à distance la pulsion, c'est-à-dire qui est plutôt désobéissance à la dimension du surmoi.
Oui, d'ailleurs, c'est assez curieux puisque les dits libertins sadiens, au fond, quand on lit ça de près, on s'aperçoit qu'ils ne font que essayer d'appliquer la dure loi de la nature, voire d'appliquer la dure loi du Dieu suprême en méchanceté. C'est-à-dire, au fond, ce sont des sujets obéissants.
Ben, c'est ce que j'ai voulu, effectivement.
Et ils jouissent de leur obéissance au pire. Alors, le fait est que peut-être que ce retour de l'idée de désobéissance vient peut-être du fait qu'on voit de plus en plus des gens prêts à obéir au pire.
Voilà, peut-être qu'il faut que depuis la psychanalyse, on fasse valoir une désobéissance du côté du désir, finalement, et non pas du côté de la pulsion.
Bon, on va peut-être s'arrêter là.
Merci.
Je remercie. Merci.